7h43, voici la revue de presse internationale d'Éric Biégala. Bonjour Éric.
Bonjour Guillaume.
Avec pour commencer une bonne nouvelle en provenance du Golfe, l'annonce de l'arrêt des combats au Yémen.
Oui, c'est par une déclaration du porte-parole de la coalition relayée par la Saudi Press Agency, l'agence de presse officielle du Royaume saoudien, que Riyad annonçait hier soir suspendre ses offensives sur le Yémen. Un cessez-le-feu complet qui prendra effet ce jeudi à midi pour une période de 2 semaines reconductible, précisait le communiqué. Au chapitre des raisons qui auraient présidé à cette annonce surprise, la lutte contre la pandémie du coronavirus, épidémie qui n'a pas encore atteint le Yémen mais qui promettait d'être particulièrement dévastatrice dans ce pays aux infrastructures de santé quasi inexistantes aujourd'hui. Le coronavirus est une excuse facile qui permet de sauver la face pour expliquer ce que les Saoudiens voulaient faire depuis longtemps, commentait immédiatement sur Twitter le politologue Hassan Hassan du Center for Global Policy. Le coronavirus à bon dos semble en effet abonder Elise Doucette, la spécialiste Moyen-Orient de la BBC, qui rappelle que depuis septembre et la spectaculaire attaque aux missiles sur ses raffineries, l'Arabie Saoudite cherche à tout prix un moyen de sortir de cette guerre qui dure depuis 5 ans et avait entamé de discrets pourparlers avec l'adversaire Houthi pour ce faire. Les Houthis, pour leur part, n'ont pas encore réagi officiellement à cette annonce unilatérale de cesser le feu, mais remarque la chaîne Qatari Al Jazeera, leur porte-parole a d'ores et déjà transmis à l'envoyé spécial de l'ONU pour la région un plan de négociation complet incluant un arrêt des combats et la fin du blocus imposé par l'Arabie Saoudite. N'empêche, même si les pourparlers de paix sous égide onusienne démarrent effectivement, conclut Elise Doucette, il risque de se passer encore pas mal de temps pour que ceux-ci aboutissent à la conclusion d'une véritable solution politique, celle dont le Yémen a désespérément besoin.
Et puis en Europe, Eric, c'est la foire d'empoigne autour de la politique à tenir face à la pandémie, et c'est cela qui occupe les éditorialistes.
Oui, une Union européenne plus désunie que jamais, semble-t-il, qui ne parvient pas, on l'a vu, à ficeler son plan de sauvetage pour venir en aide aux économies européennes les plus frappées par la crise sanitaire, et qui voit dans le même temps le directeur de son Conseil européen de la recherche démissionner bruyamment, citant la réponse décevante de Bruxelles face à la pandémie. C'est en effet par une lettre envoyée au Financial Times que Mauro Ferrari a annoncé sa décision, de quitter le poste de directeur qu'il occupait depuis le début de l'année à la tête de ce Conseil européen, chargé de coordonner les efforts de la recherche entre les États membres de l'Union européenne et qui est aussi la première agence de financement pan-européenne pour la recherche. Dans sa lettre au quotidien de Londres, le professeur Ferrari explique qu'il a essayé en vain de convaincre les officiels européens de créer un programme spécial pour combattre l'épidémie de Covid-19 et que ses propositions avaient été rejetées à l'unanimité par le bureau scientifique du Conseil européen pour la recherche. Je crois que j'en ai assez vu quant à la gouvernance scientifique et aux opérations politiques de l'Union européenne, assène le professeur Ferrari avant d'annoncer son départ pour les États-Unis pour, dit-il, y poursuivre le combat contre le coronavirus. Sauf que les choses ne sont pas forcément aussi simples. Dans la foulée de la publication de cette lettre, le bureau scientifique du Conseil européen pour la recherche publiait à son tour un communiqué, rapporte le site sciencebusiness.net, un communiqué dans lequel les 19 membres de ce bureau scientifique révélaient avoir tous individuellement demandé la démission de Mauro Ferrari, et ce dès le 27 mars dernier, citant ses absences à répétition, son peu d'engagement dans la mécanique de fonctionnement du Centre européen pour la recherche. Résultat, que Ferrari ait été démissionnaire ou qu'il ait été démissionné, l'agence de financement de la recherche en Europe n'a aujourd'hui plus personne à sa tête.
Et puis en Asie, où l'épidémie recule, Eric, c'est l'heure d'une sorte d'examen de conscience des pays et de la région face à la Chine.
Oui, dans un long papier titré « Ce que le Covid-19 nous a révélé des relations entre la Chine et l'Asie du Sud-Est », le magazine en ligne The Diplomat passe en revue les réponses et les réactions des différents pays de la région face à l'épidémie, partie de Chine. La gestion de la crise, écrit-il, a démontré une tendance régionale à surtout faire preuve de loyauté vis-à-vis de la Chine, au risque de parfois mettre des vies en danger. La crise a en tout cas révélé une nouvelle proximité politique et diplomatique, voire un véritable alignement sur les pratiques chinoises, sans la moindre critique. La plupart des premiers cas de contagion à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam ou en Malaisie ont ainsi été le fait de personnes étant passées par Wuhan, en Chine. Or, les liaisons aériennes avec Wuhan n'ont aucunement été suspendues et toutes les capitales de la région ont accueilli les touristes chinois qui traditionnellement débarquent pour les vacances à la fin de l'année, fin janvier. Ce n'est qu'une semaine après la mise en confinement complet de Wuhan que la plupart des pays ont commencé à restreindre les voyages en provenance de la province de Hubei, quant à défier la Chine au sujet de cette épidémie, ce n'était tout simplement pas permis, écrit The Diplomat. De très nombreux posts sur les réseaux sociaux ont ainsi été censurés au prétexte de fake news dans les pays d'Asie du Sud-Est, poursuit le site en ligne, qui remarque au final que cette même accusation de fake news ou de propagation de rumeurs est pourtant précisément l'argument employé par les autorités chinoises elles-mêmes pour réduire au silence ceux qui avaient essayé de tirer la sonnette d'alarme depuis Wuhan au début de la crise.
Merci beaucoup Éric Biégala pour cette revue de presse internationale. Il est 7h48 sur France Culture.